Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est Henriette Walter que vous retrouvez dans cette série d'émissions consacrées aux langues régionales de France. Henriette Walter est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Et dans cette série de 20 émissions établies en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, elle nous fait partager tout son savoir et toute sa compétence de linguiste pour s'y retrouver dans les langues de France, ce qui n'est pas simple, car il y en a beaucoup. Bonjour Henriette Walter.
Bonjour.
Vous allez nous parler d'une langue qui ne vient ni du latin, ni il n'est pas romane.
On ne sait
pas
très bien. Elle est romane, mais elle n'est pas occitane. Si
elle n'est pas occitane.
Ce n'est pas une langue. Ce n'est pas du provençal, voyez-vous. Ça s'appelle le franco-provençal, mais ça n'est pas du provençal.
Voilà. Et ça ne ressemble pas, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Alors, le franco-provençal, parce que déjà dans les autres émissions, je rappelle qu'on avait étudié le provençal alpin, qui est une langue à lui tout seul, et le provençal maritime, celui de Mistral, qui est aussi une langue évidemment un peu compliquée. Maintenant, nous parlons du franco-provençal, qui n'est pas provençal.
Voilà.
Soyons clairs.
Voilà, c'est pourquoi le titre de cette émission, c'est « Le franco-provençal, langue méconnue ». Car en fait, cette langue n'a été reconnue que très tard, grâce à un Italien d'ailleurs, un dialectologue italien, Grazie a Dio Ascoli, qui lui a donné ce nom de franco-provençal et qui est un nom difficile à porter, en fait, parce qu'il est trompeur. Parce que dans franco-provençal, on a l'impression qu'il y a un peu de français et un peu de provençal.
Voilà, il nous a introduit une confusion, c'est déjà difficile.
Il nous fait croire qu'il est à la fois un peu français et un peu provençal. En fait, c'est une langue à part entière, c'est une autre langue.
Bon, mais il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné un autre nom, alors.
Non,
alors, ce nom.
Martinet disait, on aurait mieux fait de dire rhodanien. Parce qu'à ce moment-là, ça aurait été un peu géographique et ça aurait été plus facile. En fait, elle a été parlée dans une région qui englobe, si vous voulez, tout ce qui est autour de Lyon et Genève et le Val d'Aoste en Italie. On a un petit triangle là aussi,
oui,
encore.
Rhodanien aurait été un meilleur titre.
Aurait été bien meilleur. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, les linguistes insistent beaucoup pour ne pas mettre le trait d'union. Parce que si on met le trait d'union, on a l'impression qu'il y a les deux langues qui sont l'une dans l'autre. Tandis que si on ne met pas de trait d'union, on dit « attention, c'est une langue, c'est une seule langue
bon. ». Voilà. Retrouvons maintenant Dominique Stich, spécialiste du franco-provençal, qui va nous réciter un poème de François Blanc, dit Blanc la Goutte, un commerçant grenoblois qui a composé ce poème lors de l'inondation de Grenoble le 15 septembre 1733. Dans cet extrait du long poème Grenoblo-Malérou, le Drac et l'Isère commencent à gonfler et menacent la ville de Grenoble.
Tantôt le drap groussit de l'aineille que se fondent, ou du ruc en bruyant de tout le rocher tombe, coulant rapidement tout le long du zila, vint m'étale à Frayou jusqu'à dans la villa. Les arches, vénamment, l'y barrent le passage, en versant paix dessus, partout y fait ravage. Tous les Champs-Élysées sont couverts de gravier, l'ou meuble, l'ou tonneau flottent tout surigné. L'eau paysan que veille, que lègue à l'environne, fait sortir son bétial, le chasse, l'abandonne, la garde du canon, le meunier de cannelle, montons sous le couvert tout comme à Chantarelle. Les granges, l'ou glacis, l'ou fossé se remplissent, paix dehors, paix dedans, mille cris retentissent, commandant, intendant, u flambeaux vont au cours, font partie de batteux, peu donna de secours. Mais là, ça sur le champ, l'éga devint si forte, qui fa tomba le pont qu'aboutit à la porte. Prougeant que son dessus chaillon d'un loup débris, et un jaune Maria funestement périt. Tantôt le loup surprend un éphant qui s'égare, tantôt le vin naffra d'un loup bras de sa mare, l'un tue une affilie, l'y traverse le drap, iqué l'on vait un pied, il est l'on vait un bras, l'autre prend, eu collant un homme qui l'abore, quand bien se défendant, n'équite peu ce lore, et un hardi berger que ses précautionna revint du champ sanglant et sans ment et sans na.
on a pu remarquer que certains mots ont leur accent tonique sur la finale, ce qui est la particularité de Grenoble et de sa région. Vous pourrez retrouver en fin d'émission Clément Moutier et Dominique Stich pour une autre récitation de poèmes en franco-provençal. Mais continuons à découvrir cette langue avec Henriette Walter. Alors, cette langue du franco-provençal ne s'est pas construite toute seule. Quelle est son histoire ?
Elle va être influencée et par les langues du Nord, c'est-à-dire par les langues d'Oïl, et par les langues du Midi, c'est-à-dire par le provençal, bien sûr. Mais il va falloir distinguer avec tout ça. En fait, le franco-provençal dépasse les frontières de la France. J'ai dit tout à l'heure Genève, donc il y a la Suisse, et j'ai dit Val d'Aoste, il y a donc également l'Italie. Et d'ailleurs, c'est dans le Val d'Aoste que le franco-provençal est le plus vivant. Par contre, malheureusement, en France, le franco-provençal a beaucoup souffert d'une trop grande fragmentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un dialecte qui a pu prendre la direction des opérations. Et donc, c'est bien dommage, ce qui fait qu'elle a vraiment perdu beaucoup d'importance, puisqu'elle est tellement morcelée, cette langue. En France, c'est en Savoie que ça s'est le mieux maintenu.
Savoie qui a fêté ses 100 ans d'annexion à la France, donc c'est assez récent.
Exactement,
finalement.
Exactement. Mais il faut dire que jusqu'à la fin du XXe siècle, il y avait des villages où on parlait le franco-provençal presque à 90%, hein, peut-être pas à 90, mais à 70%. Donc c'était beaucoup, ça existait tout de même. Maintenant, comment reconnaître le franco-provençal, puisque j'ai dit que ça n'était ni l'un ni l'autre, hein. Ben, je vais prendre un seul exemple. L'exemple justement de ce CA latin, ce que CA latin, qui n'a évolué ni dans le sens du nord des langues d'Oïl, c'est-à-dire ch, ni dans le sens du midi, c'est-à-dire que, où c'est resté que. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une consonne qu'on n'attendrait pas là, un « th ». C'est-à-dire
« th », comme
en anglais. Comme en anglais.
Et comment les linguistes appellent-ils ce genre de…
Interdentale.
Je suis sûre qu'ils ont un nom. Ah ben voilà.
Simple.
Une interdentale,
c'est très simple, interdentale. Hein. Non, vraiment, c'est pas difficile. Hein. Comme en anglais, dans l'adjectif « thin ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le latin « carbonem », ça fait « farbon ».« Farbon ». Le verbe « chanter », c'est « santo ». Et la chèvre, c'est la thèvre. Facile.
Et ça mais se retrouve que dans cette langue-là.
Oui. Alors c'est amusant, il n'y a aucune influence de l'anglais, hein. Ils ne sont pas venus là, les Anglais.
Non,
c'est beaucoup
pourtant,
plus à l'ouest.
Pourtant, ils ont
hein.
été beaucoup. Enfin, en tout cas, beaucoup chez nous.
Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où les Anglais étaient là, mais plutôt dans l'ouest de la France et pas tellement dans l'est.
Ils ne sont pas montés jusque-là.
Dans l'est, voilà. Et évidemment, le franco-provençal est resté beaucoup plus proche du latin que le français. Il a gardé les voyelles finales inaccentuées. Vous avez vu tout à l'heure, on a dit « thèvre » et non pas « ou thèvre » et non pas « thèvre », n'est-ce pas ? Malgré le «
Donc, feu, il garde le « a ».
Il garde voilà. La voyelle finale, qui n'est pas tout à fait un « a », ce qui est une voyelle un peu plus faible. Enfin bon, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, un dernier mot sur cette langue, qui a été un objet d'étude particulièrement intéressant pour tous les dialectologues. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la première langue régionale, le premier dialecte qui a été décrit scientifiquement avec des méthodes modernes où on a essayé d'établir quel était le système phonologique, c'est-à-dire quels étaient les phonèmes distinctifs de cette langue. Ça a été publié par André Martinet, qui était lui-même savoyard, et il avait recueilli toute son expérience auprès de sa mère, qui était une très bonne patoisante, disons, du savoyard, et il l'a publié dans la description phonologique avec application au parler franco-provençal d'Hauteville, Savoie. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que cette méthode de description qui a été décrite ainsi a été utilisée depuis le milieu du XXe siècle par une quantité incroyable de linguistes qui ont trouvé là le moyen de décrire toutes les langues en
fait,
disant « je vais prendre la
méthode ».
C'est la
voilà.
méthode, voilà. Bon. Et c'est fait sur le modèle du franco-provençal, ce qui met le franco-provençal un petit peu en haut, disons. Voilà, puisqu'on est sur Canal Académie, je voudrais parler d'un savoyard très célèbre à l'Académie, Fabre de Vaugelas.
Ah oui, mais c'est pas la même époque, voilà. J'en cherchais un.
Vous en cherchiez un bien sûr. Bien sûr, on est dans les origines même de la chose. Alors, il s'appelle Claude Fabre, plus connu sous le nom de Vaugelas. Il a été le principal artisan de la première édition du dictionnaire de l'Académie. C'est pas rien, hein. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'est qu'il a été au fond l'inventeur du bon usage et qu'il a été peut-être le meilleur connaisseur de la langue française, alors qu'il venait de Savoie. Il était arrivé à Paris assez tôt, hein. Il était assez jeune quand il est arrivé, mais il avait gardé un petit peu dans son esprit les formes, disons, de ce franco-provençal.
Que vous appelez voilà. Savoyard, j'ai l'impression qu'on peut l'appeler comme ça aussi.
Ben, disons que le Savoyard, c'est une des formes du franco-provençal, voilà. Puisque c'est plus gras, c'est plus large.
C'est
n'est-ce
une
pas
forme qui est restée très active,
voilà.
Elle, en fait.
Voilà, c'est ça, en France.
En France,
pour la France.
En tout cas.
Hein, parce que pour le reste, en Suisse et en Italie, c'est beaucoup plus vivant. Donc ça, c'était quelque chose qui était un petit peu particulier au milieu de la France, mais à l'Est. Et la prochaine fois, on va voir quelque chose qui est symétrique, mais à l'ouest. Et on va voir que les résultats n'ont pas du tout été les mêmes.
La surprise est complète. En tout cas, Henriette Walter, je vois que vous avez un point commun, outre votre admiration pour André Martinet, qui se perçoit dans vos propos. Vous avez un point commun avec lui, c'est que son étude savante, publiée en 1939, la description phonologique avec application au parler provençal d'Hauteville, Savoie, est publiée chez Drose.
Oui.
De même que vous avez
absolument publié
la dynamique des phonèmes dans le lexique français contemporain diffusé par Drose. On voit que Drose est une maison sérieuse. Et vous avez aussi publié « Aventures et mésaventures des langues de France » qui est plus accessible pour le pauvre public que nous sommes. Retrouvez Clément Moutier pour découvrir cette langue avec quelques extraits de chansons. Mais tout de suite, rejoignons Dominique Stich pour une autre récitation de poème « La flânerie » en franco-provençal.
Là, c'est simplement le début. Donc, le début de la Gorlanchia, qui veut dire la flânerie, qui est une promenade dans sa ville natale de Rive de Gier. Le poète s'appelle Guillaume Roquille. Sa petite ville, c'est un bourg, s'appelle Rive de Gier. G-I-E-R, le Gier étant une rivière. Ça se trouve exactement à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne. Il y a un canal qui passe par là. Et ensuite, il y a le chemin de fer qui a été construit au XIXe siècle, qui a changé énormément la vie des habitants. Et donc, en 1857, il est revenu dans son village natal après l'avoir quitté pendant une dizaine d'années, peut-être à la suite d'une condamnation. Et là, il retrouve tous ses amis et raconte la manière dont il est accueilli, c'est-à-dire assez bien, peut-être même trop bien. Donc, La Gorlanchia de Guillaume Roquille, 1857. À force de piato, me véca de retour. D'un coup brave au pays que m'a balié le jour. Mon parrain ne sont plus, et tôt mon patrimoine ne pourrit pour suffire ou déjuno d'un moineau. Mais l'accueil que me font tôt mon concitoyen, issa remédio par différents moyens. J'empaille un saucisson, liodo paye une arouelle, et partout le chiquier chaillon comme la grêle. Tueno de son coteau me porte à cœur ouvert. « Viens, Guillaume, dit-il, logis en mon covard. Je t'offrirai d'abord une bonne accouchette, que te couche d'avant, que te couche à la rouette, te pourrai ronflot le moins jusqu'à main jour, et l'ombre à d'Urizzo te cachera le jour. Mais dis donc, fais-tu plus de rofolle patoise? J'ai tient d'un coup moment surchargé de gandoise, j'allove sur le coup défaire mon ballot, quand toi ne me disis, Guillaume, laisse-le. » Alors nous vont tout doux jusqu'à la Domorance, on te la fait construire à la nouvelle France. Un éphal au-dedans est tout un boiserie. Je pense que le bois vaut la tapisserie. Décharge mon ballot, j'embrasse sa famille, que font tous bon accueil au bonhomme Roquille. Et quand n'auront pas nos choquin un petit coup, au coffre chotagnon nos piquelons sur le cou. Et sur notre nous chemin, nos anciens camarades, un m'offrant tour à tour à bère une arasade, venons de tout lolo, me pugnato l'amont. Guillaume me domptait, te mode pas de mon? Non, suis paralysie, j'ai la chombe à trop l'os. Laissez-me, s'il vous plaît, allô prendre une atos. J'aime au mieux le café que le plus fin nectar. Salut bien, mes amis. Nous reverrons plus tard.
Bien, merci Monsieur Stich. On a vu qu'il faisait ripaille.
Oui, c'est ça. Hein. Il est accueilli aussi bien pour dormir que pour manger, au café, etc. Et lui qui était quelqu'un, avant son départ, était de son propre aveu un mauvais sujet. C'est beaucoup assagi, il ne boit plus, alors qu'il reconnaissait qu'il était un ivrogne invétéré. Et comme il est invalide, évidemment, il ne peut plus non plus aller courir partout comme il faisait auparavant.
D'accord. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Stich, pour ces récitations.
Ben, c'était un plaisir.
C'est en musique maintenant que Canal Academy, en partenariat avec le Hall de la Chanson, vous propose de découvrir cette langue du franco-provençal avec une création contemporaine de la chanteuse Laurence Revet, une berceuse intitulée Brecello.
Fla de la fumir, y a fait mal et jouer, y est au bien fascia, t'es en la boguer, comme un lilagia, au lazintabé.
Ensuite, vous pourrez entendre Josette Reynaud interpréter en franco-provençal La Marion.
La Marion se sont paumés, que ce guinguinave. La Marion se sont paumés, que ce guinguinave. Que ce guinguinave de C, que ce guinguinave de L, que ce guinguinave. Imbossu vint à passa, que la regardave. Imbossu vint à passa, que la regardave. Que la regardave de C, que la regardave de L, que la regardave.
Après cette interlude musicale, retrouvez Jean-Marc Jacquier, membre du groupe de musique traditionnelle savoyarde La Quinquerne. Passionné par les richesses musicales de sa région, Jean-Marc Jacquier, considéré comme l'âme de cet ensemble, évoque ce qui lui a donné envie de chanter en franco-provençal.
J'ai commencé à faire des recherches sur le répertoire, donc chansons et puis évidemment pièces instrumentales pour la danse. J'ai vu aussi qu'il y avait des bouquins. Donc il y avait des collectes qui ont été faites par les curés puis par les instits fin 19e, début 20e. J'ai commencé mes propres collectages. Et puis le franco-provençal, donc ce que j'appelle moi, ce qu'on dit improprement le patois, ou bien qu'on dit la langue savoyarde. Ici, ma grand-mère avec son frère ou mon grand-père, ils parlaient que ça, c'était leur langue maternelle. Donc moi, puis tout gamin, je l'ai eu dans l'oreille. Ils ne s'adressaient pas forcément en patois à moi, sauf des fois pour m'engueuler ou pour un truc précis. Mais j'ai toujours eu j'ai ça dans l'oreille. Pareil, du côté de ma mère, on ne parlait pas le patois, mais dans mes vacances, j'étais envoyé chez les cousins à Mieuxcy, dans la famille à La Mano, à Souchâtel, et puis je montais en alpage avec eux. Donc là, c'était l'environnement, c'était en patois aussi. Donc j'ai entendu le patois du Chablais, le patois du Faucigny, donc la vallée du Giffre. J'ai eu ça en oreille depuis toujours. Même si on m'a pas parlé directement. Et assez vite, je me suis aperçu qu'il y avait un répertoire de chansons en français et puis un répertoire beaucoup plus petit, en savoyard. Et c'était souvent des chansons qui faisaient rire les gens. Et je me suis aperçu, après, dans mes recherches, c'était justement un répertoire qui n'avait pas été collecté par ces collecteurs savants, donc curés ou instits. Parce que, très souvent, c'était des chansons pour se moquer, des chansons grivoises. Et ça a été un peu occulté. Alors, c'est clair que moi, ça m'intéressait. Et j'ai commencé à faire des recherches à la fois dans les bouquins qui étaient parus. Je me suis aperçu qu'il y avait des bons patoisans qui avaient écrit des poésies, qui avaient écrit des chansons. Alors, quelquefois, c'était avec des airs originaux. Quelquefois, c'était sur l'air de, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, il y avait déjà une richesse de répertoire. Et puis, dans mes collectes, j'ai effectivement enregistré aussi des chansons comme ça en savoyard. Alors, pourquoi chanter en savoyard? Eh bien, simplement parce que ça fait partie de ma culture. Et comme c'était un peu en voie de disparition, autant en profiter.
Canal Academy vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle vous emmènera dans le département des Deux-Sèvres à la découverte du Poitou-Saintonge. Canal Academy vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la Chanson www.lehall.com.